I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 28. Chère famille d'accueil.
Chère maman, cher papa, maman, ces mots ont pris tout leur sens quand vous m'avez accueillie à l'âge de 9 mois et demi. Et aujourd'hui, je vois pas ma vie sans vous. Je vous aime. Laura.
Laura est âgée de 18 ans. Elle étudie le droit et elle chante. C'est l'une de ses passions. Nous l'avons rencontrée à Colombes dans le cadre d'un projet mené avec l'association Fausse Note. L'idée, c'était de proposer à 5 habitants volontaires d'adresser une lettre à qui le souhaitait. Un voisin, un membre de leur famille, un ami. Le choix était libre et ces récits allaient ensuite inspirer des chansons. Vous allez d'ailleurs en entendre une à la fin de cet épisode. Et dans le quartier, on nous a rapidement parlé de cette jeune fille lumineuse qui aime la musique et qui a la voix douce. Alors nous l'avons contactée, elle était partante. Au téléphone, je lui ai demandé à qui elle aimerait adresser sa lettre. Silence de quelques secondes au bout du fil, puis elle a répondu « à ma famille d'accueil ». Car depuis toujours, ou presque, Laura vit dans la famille de Morissette, qui est devenue sa famille.
Du coup, moi j'ai grandi à Colombes. Je suis arrivée en famille d'accueil il y a 9 mois. Mais moi je suis restée dans ma famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Et encore pendant quelques temps, je pense. Je me suis sentie apparemment, de ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée, j'étais super contente. La première chose que j'ai fait apparemment, c'est que je suis allée dans mon lit. J'ai tendu les bras à mon lit. Et après, j'ai dormi, j'ai fait une nuit entière, j'étais une énorme dormeuse. Je me suis sentie très bien, il y avait un chat déjà. Il s'appelait Valentin. Je l'aimais beaucoup. En fait, ils ont pas mal d'enfants chez eux. Moi, je suis celle qui est arrivée le plus tôt et qui est restée le plus longtemps.
On m'appelle, il était 19h un soir, en disant, voilà, on a un bébé à placer en urgence, c'est pas question qu'il retourne chez la maman. Est-ce que vous pouvez venir le chercher, ce bébé ? Donc, je suis Morissette, j'ai 70 ans, à la retraite depuis un an maintenant, et la maman de cœur, voire plus, pour Laura. Et nous sommes famille d'accueil depuis 33 ans. J'ai dit, écoutez, j'arrive. Et puis, dès qu'elle m'a vue, elle a tendu les bras, et la maman était là, bien sûr. Et l'éducateur était très, très surpris, parce que lorsque je l'ai prise dans mes bras, au service, elle s'est endormie tout de suite dans mes bras. Sans remarquer que sa maman était là, qu'elle allait partir. Elle s'est endormie paisiblement dans mes bras. C'est la crèche, je pense, qui a dû faire le signalement. Donc, on m'explique tout ça en quatrième vitesse. Il y a un contrat qui est signé 3-4 jours après pour Laura, défini par le juge. C'est-à-dire, tous les deux ans, c'était renouvelable.
C'est une décision de base qui était provisoire parce qu'il y avait une situation compliquée à la maison, avec les demi-frères du côté de ma mère. Je crois que mon demi-frère trafiquait ou un truc comme ça. Donc c'était provisoire de base, mais à 4-5 ans. En fait, j'allais le week-end chez mon père, un autre week-end chez ma mère, parce qu'ils étaient séparés, donc là, mes parents biologiques. Donc j'avais toujours un contact avec eux.
Ça, c'est compliqué pour la famille d'accueil, parce qu'on ne sait jamais comment l'enfant va revenir, etc. Il faut expliquer tout ça à l'enfant, il ne faut surtout pas mentir. expliquer pourquoi elle est placée. J'ai dit, ben voilà, nous serons donc ta famille d'accueil. Tu es placée là déjà pour 2 ans. Papa et maman ne peuvent pas assumer que tu puisses grandir avec papa et maman. Mais l'enfant comprend, même un bébé comprend. Et Laura était quand même déjà très colérique. Par exemple, à 1 an, si elle avait un verre dans les mains, elle voulait le jeter en pleine figure, quoi. Donc ça a commencé comme ça avec Laura. Avec d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait les chercher parfois dans des foyers. Et parfois, les enfants s'accrochent à vous pour dire « mais c'est moi que tu dois prendre ». C'est bousculant tout ça. Hein. C'est pas évident. Pas du tout même. Il faut garder son sang-froid. Et... Non, famille d'accueil, c'est... On dit enfants sans souffrance, mais famille d'accueil en souffrance aussi.
Enfin, quand j'ai eu 4-5 ans, ma famille d'accueil a vu que j'avais un comportement différent avec mon père, qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc du coup, mon père a abusé de moi quand j'étais petite, entre 2 et 5 ans.
Eh ben, je m'en suis rendue compte. Alors la maman venait de la... on se donnait rendez-vous à la gare de l'Est parce qu'elle demeurait la Seine-et-Marne, donc gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Je lui ai dit « ça va Laura ?» Elle ne répondait pas. Lorsque Laura a baissé les yeux, j'ai vraiment eu un doute parce que j'avais vu le papa plusieurs fois lorsqu'il raccompagnait Laura à la maison de l'embrasser sur la bouche, mais d'une certaine façon. Et Laura, quand elle partait avec le papa, les derniers temps, elle pleurait, elle se mettait à hurler, elle ne voulait pas y aller. Et au bout de 2-3 fois, j'ai dit non, il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et je lui ai dit, Laura, est-ce que ça s'est bien passé avec maman? Tu n'as pas vu ton papa ce week-end, parce que c'était la garde avec maman. Tu n'as pas vu papa. Et là, elle me fait oui. Je regarde la maman, je lui dis, mais c'est interdit ça. Quand elle vous est confiée, c'est pas le week-end du papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je suis allée faire des courses et j'ai laissé Laura avec le papa. Et là, la question nette, je lui ai dit, mais Laura, t'as pas fait la sieste avec papa? Elle me fait si. Et là, j'ai regardé la maman, j'ai dit, ça c'est impossible, demain je porte plainte. Ce n'était pas la garde du papa. Et quelque part, vous savez ce qui se passe. Donc je suis arrivée à l'ASE. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire là? Parce que mais vous êtes sûre de ce que vous dites, etc. J'ai dit, écoutez, vous ne me suivez pas, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un problème. J'ai dit, j'ai le droit de me tromper. Si je me trompe, je me trompe. Vous ferez ce que vous voudrez après. Mais là, pour l'instant, je porte plainte à la brigade des mineurs. Elle a été interviewée pendant 3 heures à faire des dessins, voilà, raconter son histoire et tout ça. Alors, au bout de 3 heures, je les vois arriver, je vois une inspectrice arriver. Elle m'a dit, écoutez, il y a du vrai. Et puis, elle m'a dit, bah, écoutez, demain, hôpital de Garches. Et puis, c'est une femme qui va, un médecin, une inspectrice de la police, mais médecin, qui va l'examiner. C'était horrible. Moi, je suis sortie là-dedans, j'ai été choquée. Parce que quand je suis arrivée à la maison, je dis à mon mari, tu ne me touches pas. Bon, ça va, c'est effacé. L'image est effacée, mais ça a duré, ça a duré des mois.
Du coup, les visites chez mon père ont été arrêtées. Et puis, du coup, à l'âge de 7 ans, mon père s'est fait juger. Et du coup, mon père a pris 6 mois de sursis. Et puis, il a dû payer une amende. Me payer une amende. Ensuite, il a eu des obligations de psychiatrie, etc. Pendant 3 ans. Je pense qu'il n'y avait pas de situation stable. Ma mère, elle n'avait pas une situation assez stable pour me récupérer, je pense. Du fait que je ne sais pas si elle avait un travail à ce moment-là. Ouais, pour ma mère, ce n'était pas possible de me récupérer. Moi, je sais que je n'étais pas pour, déjà, revenir chez ma mère. Je n'ai jamais été pour. Parce que rien que le week-end, quand j'y allais, j'ai des souvenirs. Et, enfin, c'est pas que j'aimais pas trop, j'étais contente de l'avoir, mais... Chez moi, en fait, dans ma famille d'accueil, du coup, j'avais ma chambre, j'avais tous mes jouets, j'avais mon chat, j'avais mes parents. Enfin, tout était... C'était pas chez moi, en fait, chez ma mère. Ça me semblait bizarre, en fait, quand j'étais chez elle. Mais là, c'est, quand j'en parle maintenant, c'est des flashbacks. Mais je vois encore le studio, je vois encore l'entrée, etc. C'était pas chez moi. Les visites chez ma mère, je crois qu'elles sont arrêtées tôt, finalement. Je sais même pas si elles sont pas arrêtées en même temps que mon père. Et donc, finalement, par la suite, ça a été des visites médiatisées où je la voyais, du coup, une fois tous les 3 mois, avec soit mon éducatrice, soit un psychologue. partir de mes 7 ans, il y a eu des jugements plus ou moins environ tous les 2 ans. Donc en fait, il y a une convocation. Et du coup, le juge entend le même jour les parents biologiques, les enfants. Et normalement, il y a un rapport de l'éducatrice qu'il a lu avant le jour de l'audience. À la fin, quand il a entendu tout le monde, séparément, à la fin, quand le juge a vu tout le monde rentre dans la salle. Et là, du coup, il explique les grandes lignes. Il mentionne aussi ce que les enfants ont dit et ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent rester dans la famille d'accueil, s'ils veulent repartir, etc. Et ensuite, il prend sa décision. C'était assez stressant parce que du coup, on n'était jamais certain que je reste dans ma famille d'accueil, quoi. C'était assez compliqué de devoir dire à sa mère biologique, par exemple, qu'on n'a pas forcément envie de retourner avec elle parce qu'on ne se voit pas retourner avec elle et que finalement, on veut rester dans la famille d'accueil, qu'on est bien où on est. Ma mère biologique, du coup, elle a eu des réactions souvent qui étaient assez violentes. Elle partait de la salle en claquant la porte. Elle était énervée, elle n'était pas contente. Ça se comprend maintenant. Quand tu grandis, tu le comprends, tu sais pourquoi. Mais quand t'es enfant à 7 ans, tu te dis, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, tu le prends vraiment comme si tu lui faisais ouvertement du mal, alors que tu dis juste ta volonté. Ta volonté, c'est à ce moment-là, ton envie, c'est de rester dans ta famille d'accueil, même si ça lui plaît pas. Enfin, j'étais en colère, quoi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'un peu garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, la bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, la bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux.
À la maison, pendant le week-end ou les vacances, on accueillait des enfants déjà de l'aide sociale à l'enfance pour partir en vacances avec eux ou alors pour passer un week-end avec eux, voilà. Et puis, après la naissance de ma deuxième fille, donc Barbara, parce qu'entre-temps, j'avais perdu 2 petits garçons. Fausse couche, si on peut appeler ça des fausses couches, 7 mois et 3 semaines et 8 mois et demi de grossesse. Hein. Donc, des accouchements quand même. Mais malformation cardiaque, tous les deux. Donc, voilà. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que devenaient ces enfants. J'ai jamais su ce qu'ils ont fait de ces bébés. Et puis, je me suis dit, je vais prendre 3 ans de congé parental pour élever Barbara. Et puis, au moment de reprendre mon travail, j'étais donc secrétaire de direction chez Citroën. C'est une amie qui était directrice à l'aide sociale à l'enfance qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc comme ça? Je te verrais bien dedans, famille d'accueil. Seule chose que je n'avais pas calculée, c'est que le salaire n'était pas le même. Hein. C'était divisé par 4, au moins. On n'avait pas 1 000 euros et cette somme était réglée donc par le département. Voilà, c'est quand même du 24 heures sur 24, week-end compris. Donc c'est un choix que nous avons fait avec mon mari. Mon dossier a été très vite accepté. L'éducateur passe pour savoir comment sont les chambres. Ah oui, oui, il y a un vrai contrôle à la maison. Et puis de là, j'ai tout de suite commencé l'université Paris 10 en psycho, ce qui m'a énormément aidée parce que le premier petit garçon que nous avons eu, c'était terrible, quoi. Le pauvre gamin, la maman était complètement très violente. Parfois, on n'y arrive pas. Parce que l'enfant est tellement marqué ou très coléreux. Ça implique de les suivre scolairement, ça implique des soins, s'il y a des besoins psychologiques aussi, hein, parce que des fois, il faut les emmener chez un psychologue. Laura a été suivie aussi par des psychologues. Tout le monde est passé par le conservatoire à la maison. C'était une école obligatoire. Même les enfants que j'ai gardés, hein, ils sont tous passés par le conservatoire. Ils sont tous sortis avec un instrument, enfin voilà, avec un diplôme en musique. C'est comme, bon, on ne peut pas dire nos propres enfants, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, c'est du 200%, peut-être plus que nos propres enfants. pour ça qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Voilà. Et puis, alors, combien d'enfants j'ai gardé? J'ai eu très peu d'enfants, mais long terme, 10 ans, 8 ans. Laura, elle fait partie de la famille, hein, depuis le temps. Voilà, elle nous demande d'ailleurs d'être adoptée. Je lui dis, mais tu n'es pas adoptable. Hein. Tu le sais très bien que tu ne peux pas être adoptée parce que tes parents n'ont pas été déchus de leurs droits de parents. Elle dit, oui, mais je peux porter les deux noms. Maintenant, je fais du droit. Je sais ce que je veux. J'ai dit, bah, discute-en d'abord avec maman, hein, parce que, voilà, nous, ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'elle nous considère comme ses parents.
Du côté de ma famille d'accueil, ça, ils m'ont toujours dit c'est tes parents biologiques, Laura, etc. Tu gardes des bons rapports avec eux, tu... Voilà. Alors du coup, maintenant, vu que j'ai 18 ans, j'ai commencé à organiser moi-même les visites avec ma mère, donc entre nous deux. Et du coup, maintenant, on se voit quand on veut, pour les fêtes, pour se voir, machin. Du coup, je suis avec ma famille d'accueil maintenant, enfin avec mes parents, parce que du coup, je les appelle mes parents. Parce que j'ai toujours été avec eux, parce que c'est eux qui m'ont élevée, parce que tous mes repères sont avec eux, parce que je pars en vacances avec eux, parce que je suis comme leur fille, parce que je connais toute leur famille depuis mes 9 mois. Donc oui, pour moi, c'est mes parents. Ils ont eu 2 filles. Enfin, les deux sont mariées, elles sont grandes, elles ont entre 40 ans et 30 ans, et elles ont déjà fait leur vie, elles ont un travail, etc. Non, c'est comme mes grandes sœurs. Je fais plus de différence, en fait. Entre lien du sang, lien du cœur, lien de... Ouais, c'est ma famille. Donc mes parents d'accueil, ils ont entre 68 ans et 70 ans. Moi, leur âge, c'est plus une angoisse. C'est-à-dire que je sais que bah, ils vieillissent. Parce que j'ai envie qu'ils voient ce que je deviens. Avec qui je vais faire ma vie, etc., etc. Je me dis, ouais, faut que je profite d'eux, quoi. Qu'ils soient encore là. Bah, j'aimerais avoir plus de temps avec eux.
Laura, mon cœur, heureuse de t'avoir parmi nous. Les mots disent si peu de choses, alors un seul mot, je t'aime. On lui donne comme nos filles, on lui donne la même chance dans les études et tout ça, donc on n'a pas regardé, là, on l'a, elle est à notre charge, par exemple. S'il y a quelque chose à faire dans une famille d'accueil, pour leur dire la vie, il y aura toujours de mauvaises surprises. Il y a des bonnes choses, mais aussi de mauvaises surprises. Et c'est maintenant qu'il faut apprendre à se battre. C'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut se dire, ben, il faut que j'y arrive. Je ne suis pas parce que j'ai été placée que je ne suis pas comme un enfant comme les autres. Moi, je disais toujours ça. Et oui, tu es placée, ok. Et alors, je les booste à ça. Je sais toujours booster ça. Ah oui, bah d'accord, bah oui, t'as souffert. Ah bah oui, là, c'est pas juste. Je suis d'accord avec toi, mais la vie, c'est comme ça. Donc, il faut se battre là où c'est pas juste à toi de te battre. Bon, moi, si je dois terminer là-dessus, c'est ça. La souffrance n'excuse pas tout. On a tous des choses à raconter qui nous ont fait souffrir. Dire, bah, je suis malheureux, on m'aime pas. Non, allez, vas-y, fiche-toi un coup de pied aux fesses et avance, quoi. Hein. c'est ça, la vie, hein, aussi, hein.
Il y aura un beau jour où je serai indépendante, mais pour l'instant, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Et je sais que là, je suis en fac de droit. Et donc, je sais pas encore où ça va me mener, mais ça fait longtemps que la justice me touche. Et j'ai la chance de pouvoir rester avec eux. Voilà, de faire mes études comme un jeune normal.
Ça tangue un peu, mais ça tient bon. C'est une solide embarcation. Une arche, un rafio, c'est selon. Une barque, un radeau de fortune, un abri pour chacun, chacune, un refuge au cœur du typhon. À bord, il y a des échoués que la mer n'a pas su bercer, arriver au gré des marées. Des aléas et des courants, des esselés sur l'océan. Déraciné. Rien du cœur et rien du sang. Au fond, c'est quoi l'important? Tant que les bras, tant que le vent nous pousse dans le dos, les liens du cœur sont mon bateau. Ça tangue un peu, mais ça tient bon. Vos mains de bois sont ma maison. êtes ma nef, mes fondations. Ma forêt, mon champ, mon village, ma fenêtre et mon paysage. En toi, mon nid et mon cocon. On a traversé des nuits blanches, des tragédies, des avalanches, des eaux glacées, des lames de fond. On n'a même plus peur des orages, on se fout des mauvais présages. Lien du cœur et lien du sang. Au fond, c'est quoi l'important? Tant que les bras, tant que le vent nous pousse dans le dos, les liens du cœur sont mon bateau.
Écoutez une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.
Nous pousse dans le dos, les liens du cœur sont mon bateau. Les liens du cœur sont mon bateau.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.